On va commencer. Peut-être que je vous les présenterai un par un. Mais globalement, Cédric essaye de faire bouger individuellement et de plus en plus d'individus. Julien travaille sur les premiers petits pas que l'on peut faire pour évoluer personnellement sur cette question environnementale et climatique. Et Marie, alors elle, c'est beaucoup plus gros. Elle attaque l'État. Voilà. Et elle essaye de faire que la gouvernance bouge aussi. On va commencer par Cédric, qui est scientifique, qui est connaisseur évidemment de la question climatique, la question environnementale, et qui lui a eu une idée il y a 2-3 ans à peu près, c'est de gamifier quelque part cet apprentissage, ses premiers pas dans l'aspiration et la connaissance autour du climat et de l'environnement, et qui a inventé un outil qui fonctionne incroyablement bien, parce que c'est une pédagogie souriante, amusante, collaborative, qui s'appelle la fresque du climat. Donc je voudrais que tu commences à parler, toi.
Ça merci, Jérôme.
Je t'en prie.
T'as presque tout dit, c'est bon, je peux partir. C'est la première fois que je te vois avec une cravate. Je suis pas venu pour rien.
Ah, arrête, ne me dis pas tout.
Alors, en effet, moi je suis tombé dans le climat il y a une dizaine d'années, j'ai lu les rapports du GIEC, je me suis pris une grande claque dans la figure, je me suis rendu compte que quand même c'était beaucoup plus grave que ce qu'on entend à la télé, des petits ours polaires qui vont disparaître au pôle Nord. Non, c'est vraiment quelque chose qui va nous toucher profondément. Et non seulement ça, mais en plus, les solutions ne sont pas simples. Parce que réduire le CO2, c'est s'en prendre à l'ensemble de l'économie. Et quand on voit la difficulté juste du tout début, la mettre en place une taxe carbone, ben forcément, ça a un impact sur les gens. Et puis du coup, ben, des gens descendent dans la rue. Là, on mesure à quel point on a un très, très gros challenge devant nous. Alors, il faut expliquer ce changement climatique qui est quelque chose d'anxiogène et compliqué. Et c'est pas simple. Alors, depuis que je me suis formé, je donne des cours sur le climat. Et un jour, pour essayer de rendre les choses plus dynamiques, j'ai créé un atelier. Enfin, j'ai testé avec les stagiaires que j'avais là. J'ai imprimé quelques graphiques du GIEC et je leur ai dit, allez-y, il faut les remettre dans l'ordre des causes et des effets. Et c'est un exercice que j'avais eu besoin de faire pour moi-même, d'ailleurs, juste avant. Et on l'a fait. Et j'ai vu que c'était très efficace sur le plan pédagogique. Donc, systématiquement, j'ai réutilisé cet atelier. J'ai amélioré les cartes qui vont avec. Vous les voyez. Vous avez des gens qui vont comme ça mettre dans l'ordre des causes et des effets une quarantaine de cartes. Ils ont des infos derrière les cartes. C'est très interactif. On est obligé de travailler en équipe, de réfléchir comme ça, d'exprimer chacun les choses à sa façon. Et à la fin, on va même passer dans une phase créative, c'est-à-dire qu'on sort les crayons de couleur, on dessine en dur tous les liens de cause à effet, et puis on va même faire des dessins. Vous voyez ici, ça c'est des proviseurs de collège qui sont comme des gamins à mettre de la couleur dans tous les sens. Ils étaient pire que des gamins même, très dissipés. Et ensuite, on va faire un exposé, parce qu'on a tout bien compris. La fresque qu'on a mis ensuite au tableau va pouvoir rester. C'est comme un panneau pédagogique. Les gens qui vont passer après vont pouvoir retourner les cartes et lire quelque chose. Ensuite, on passe également un moment à faire un débrief parce que voilà, on a 30-40 personnes qui sont pris eux-mêmes une belle claque dans la figure en comprenant que le climat, c'est quand même beaucoup plus grave que ce qu'on disait jusqu'ici. Et il y a besoin d'en parler. Donc il y a besoin de travailler sur les émotions, comme disait Fabrice tout à l'heure. Il faut que ça s'exprime. La partie artistique, d'ailleurs, dans le jeu, est très importante. Si on sort les crayons de couleur, c'est aussi pour qu'on puisse exprimer, avec autre chose que des mots, les choses qu'on a ressenties en comprenant cette histoire de changement climatique. Alors, on a traduit du coup le jeu dans plein de langues. Là, c'est les néerlandais que vous voyez ici. Là, c'est la version en chinois qui était testée à Pékin. Et puis là, c'est la version en polonais. Ah, je voulais vous raconter une histoire sur la Pologne. Vous savez, il y a eu la dernière COP, la négociation climat, elle était en Pologne. Et juste avant, il y avait la conférence des jeunes. Pendant 3 jours, des jeunes du monde entier sont venus et ils se sont formés. Alors là, bon, là, c'est pas des jeunes. Là, c'est des gens qui étaient dans le personnel de l'organisation de la COI, la conférence des jeunes. Et un matin, j'arrive, il y avait une fresque qui était là dans le couloir sur une table. Elle était partie. Le mec, il avait pris la fresque, il l'avait virée. Il est allé prendre 2 mètres carrés de papier. Il est allé me voler un jeu de cartes en polonais. Le mec, il parlait pas un mot d'anglais, hein, donc je pouvais pas discuter avec lui. Et il s'est mis à faire le jeu, tout seul, sans aide, personne l'a aidé. Et c'est parti, pendant 2 heures, il fait son truc, et le résultat, il est là. Voilà. Et donc là, j'étais très ému, parce que je voyais que le jeu, quand même, je savais qu'il marchait tout seul, mais là, quand même, c'était assez incroyable. Bon, il y a deux, trois erreurs là-dedans, mais c'est pas grave, il y a plein de liens qui sont bons. Il a réussi à faire ça tout seul. Il a aussi il s'est exprimé avec ses mots. Il a dit, tout ça, c'est la faute des États-Unis et de la Chine. Ok, bon, c'est vision des choses, puis un beau drapeau polonais.
Voilà. Parce que le polonais, la Pologne sur le climat.
Eh oui, oui, voilà. Il a peut-être compris deux, trois trucs sur le charbon quand même au passage. Voilà. Et ben alors, donc le jeu est tellement autoporteur, on a aussi fait une version pour les enfants qui marche très très bien. Il y a moins de cartes, c'est plus facile. J'étais assez angoissé au début à l'idée de raconter tout ça aux enfants. J'avais peur qu'ils fassent des cauchemars la nuit. En fait, pas du tout. Ils comprennent très bien, ils sont très conscients. Et c'est important de ne pas leur cacher les choses sur ces histoires-là. Donc, vous voyez l'exposé sur la fin, comme les grands. Et puis ensuite, on débriefe tous ensemble. Et puis, on fait une belle photo pour la fin. Voilà. Et donc, le projet marche tellement bien qu'on a créé une association dans le but de sensibiliser un maximum de monde et de former des utilisateurs. Donc, ça fait un an, en effet, que je travaille à donner ce jeu à un maximum de monde. L'association qu'on a créée est dans un mode très agile, basé sur la confiance, dans le but de se démultiplier le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on a adopté les principes de la douocratie, hein, du verbe to do en anglais. C'est ceux qui font qui décident. Donc, celui qui dit, qui fait. Et surtout, ceux qui pensent que c'est impossible sont pris à ne pas déranger ceux qui essayent. Voilà, donc chacun prend des initiatives, on ne demande pas l'avis aux autres et on fonce. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir grossir suffisamment parce que notre but, c'est de toucher 1 million de personnes dans les 5 ans. Voilà. On est au début. Pour faire ça, il faut qu'on double tous les 6 mois. Et donc depuis un an, on a effectivement doublé tous les 6 mois parce qu'il y a un an, moi j'avais tout seul, j'avais formé à peu près 1 millier de personnes dans les 3 années qui précédaient. Et depuis un an, on a déjà fait un événement en mars dernier, on est passé de 1000 à 2000 personnes en une seule journée, puisqu'on a formé 900 élèves d'un seul coup, avec une trentaine d'animateurs. Depuis, là, aujourd'hui, on est à 5000 personnes, donc on est passé de 1000 à 5000 personnes en un an, et en doublant tous les 6 mois, on atteindra le million fin 2022. Voilà. Bravo. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que si le climat est dû aux activités humaines, il est également dû à l'inaction humaine, et c'est ça qu'il va falloir qu'on adresse. Voilà, merci.
Ah, bravo, bravo, bravo. Pars pas, reste sur scène. Dans le climat, il y a les causes, les conséquences, et il y a aussi les solutions. Ce qui est très important, c'est comment on arrive à ramener les personnes dans cet engagement à faire. Comment ça, tu le...
Tu me demandes de faire la transition avec le suivant, c'est ça?
Voilà, quelque
chose. Merci, Jérôme. En effet, le climat, c'est quelque chose d'angoissant. Et quand on fait la fresque, elle porte sur les causes et les conséquences. Et elle n'intègre pas en elle-même les solutions. C'est-à-dire que derrière... Une fois qu'on a compris que c'était un sujet grave, il faut qu'on se pose et qu'on se dise maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. D'où le moment de débrief que je propose, qu'on propose à la fin de la fresque. Et c'est un moment pendant lequel on va évoquer toutes les solutions qui peuvent être au niveau individuel et collectif. Et du coup, je vais laisser la parole à Julien qui va vous parler de ce qu'on peut faire au niveau individuel et de son initiative à lui, qui est très importante et dont on parle nous-mêmes à la fin de la fresque. En fait, on a un panel de solutions, de choses vers lesquelles diriger les gens, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des entreprises. Et le travail de Julien, c'est quelque chose qu'on évoque et c'est une piste qu'on donne aux gens qui veulent s'investir et changer des choses dans leur propre vie.
Ouais. Voilà. Donc Julien, si tu veux bien commencer, juste avant, je dirais que la fresque du climat, nous on le fait beaucoup à Langage University, il est souvent venu le faire ou d'autres, ça fonctionne extrêmement bien. Donc je vous invite... à le faire vous individuellement, mais aussi si vous travaillez dans des entreprises, à amener cette fresque du climat à l'intérieur de votre entreprise, parce que c'est une extrêmement bonne façon de sensibiliser les personnes, vos collaborateurs, à cette dimension climatique, ça fait moins peur ou ça déstabilise moins. Je trouve que c'est un outil vraiment magnifique. Donc bravo vraiment, Cédric. Et Julien, alors toi, comment arriver individuellement à faire que les gens se mettent à bouger. C'est ça?
Allez, c'est parti. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça, c'est bravo. Un vrai bonjour. Merci.
Il est tôt encore, il est un peu tôt.
Toute ma vie, mon film préféré, c'était, et ça l'est d'ailleurs encore, Retour vers le futur. Vous vous souvenez de Marty McFly qui voyage à travers les décennies et les siècles pour, en fait, suivre le gré de ses récits. J'aurais jamais pensé qu'un jour, ça serait moi, Marty McFly. Vous me voyez ici, et pourtant, je viens de 2050. Je viens du monde de demain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en 2018, déjà, j'avais réussi à dépasser le facteur 4, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, ou cette semaine, je me mélange dans les semaines, ça y est, en divisant par 5 mes émissions de CO2, en divisant par 10 la taille de ma poubelle, en divisant par 6 ma consommation d'eau. Incroyable. Pourtant, vous me croisez dans la rue et vous dites pas, tiens, lui, il a l'air de vivre dans le monde de demain. Si ?
Tu peux.
Soyez honnête. Un peu quand même ? Non. Vous êtes vache. J'aurais dû mettre une veste. Mince, je le savais. Non, non.
Une cravate, tout le monde dit.
Une cravate. Ouais, c'est ça, la cravate. Non, là, j'avoue que la cravate, je suis pas prêt encore. Mais donc, c'est ça. Figurez-vous que ce que raconte Cédric, je l'ai vécu dans ma chair en allant vivre en Colombie et aux Philippines pendant plusieurs années et en me rendant compte de tous les dérèglements économiques et climatiques de notre société. Et à 30 ans, j'ai fait face à mes incohérences. Toute ma vie, avant les 30 ans, j'étais l'empêcheur de tourner en rond, le mouton noir de ma famille. Vous savez, celui qui gâche tous les repas de famille le dimanche. Vous savez, peut-être que vous en avez un ou une comme ça dans votre famille d'ailleurs, hein, et je m'excuse d'avance pour cette personne, mais vous savez, cette personne à côté de laquelle on n'a plus envie de s'asseoir, parce que quoi qu'on dise, ah oui, je me suis fait un petit week-end à Barcelone, c'était comment ça, un petit week-end à Barcelone, t'as pris l'avion pour un week-end, mais t'es vraiment un cinglé. Et puis ensuite, on voit toutes les bouteilles en plastique sur la table, on sort sa carte bleue qui est à la Société Générale. Bah, vous avez vraiment cette personne qui est l'enquêteur, le policier, le juge, le bourreau, c'était moi, à côté duquel on ne voulait plus s'asseoir. Et à 30 ans, je me suis dit, et si tu arrêtais de faire semblant d'être en fait le chevalier blanc de l'éco, je sais pas quoi, et que tu te mettais à l'action, et que tu arrêtais de dire aux autres ce que tu devrais vraiment faire toi-même. Et je me suis lancé un challenge qui est ambitieux. On a entendu ambition, hein, tout à l'heure, Pascal parlait d'ambition. On parlait d'ambition depuis le lancement de cet événement. Un challenge de me dire, à 31 ans, il est temps de commencer par toi. Il est temps de mettre en cohérence tes valeurs avec tes actions. Je me suis affiché sur Internet pour me persuader et réussir à tenir la première bonne résolution de toute ma vie, celle d'enfin d'être un éco-citoyen non pas parfait, mais ambitieux. J'insiste sur ce mot ambitieux. Et pendant un an, tous les jours, j'ai adopté une nouvelle alternative éco-citoyenne et j'ai raconté cette expérience sur un site Internet qui s'appelle sacommenceparmoi.org. Et j'ai fait ça du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Au début, j'étais un peu dans cette logique de réduction, je ne savais pas trop où j'allais. J'ai beaucoup appris en faisant. Et je pense qu'on est là-dedans, dans l'apprentissage en faisant. On va se planter, et je me suis planté, je me plante encore, mais je ne peux plus tolérer que cette imperfection, elle légitime l'inaction. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas vraiment sûr de faire parfaitement qu'on ne peut pas garder notre esprit critique en marche et qu'en en fait, on ne peut pas essayer de faire du mieux qu'on peut. Tous les jours, je testais une nouvelle action et un an plus tard, je me suis rendu compte de l'impact extraordinaire de ces fameux petits gestes qui, rien qu'en les appelant les petits gestes, on continue à les mettre dans une case des petits gestes. Quoi. Vous voyez bien. Et puis on se dit, quoi, un petit geste, c'est on éteint l'eau en se brossant les dents, on arrête la lumière en sortant d'une pièce. Aujourd'hui, sur la plateforme sacommenceparmoi.org, il y a plus de 430 actions éco-citoyennes. Certaines qui, effectivement, ont un petit impact, qui vaut le coup. D'autres qui ont un impact extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment. D'autres qui tiennent du monde de demain. Donc oui, moi je suis là pour vous dire que oui, toutes les solutions, elles existent. On est clairement dans la tendance du moins mais mieux. Je suis là aussi pour vous dire que oui, ces sujets, ils intéressent. Moi qui pensais faire ça un peu pour mes parents, peut-être pour mes amis et mes collègues, ce site internet, elle était vue 100 000 fois en 2017, et là on a atteint plus d'un million de visiteurs en 2018. Un million de Français sont passés sur le site et se sont demandé comment ça pouvait continuer avec eux. Un million de Français. Marie aura des chiffres encore plus intéressants sur l'appétence des Français pour ces sujets de la transition. J'aime pas parler de développement durable parce que finalement c'était aussi ce changement d'état d'esprit, de se dire au début je pensais qu'il fallait réduire. Qu'est-ce qu'on réduit? On réduit notre impact, on réduit la destruction qu'on a des écosystèmes. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que oui, on pouvait réduire, oui, on pouvait faire complètement différemment, mais surtout on pouvait avoir un impact positif. C'est en sortant un livre aux éditions du Seuil que je me suis rendu compte de ça. On m'a tout de suite dit, si tu sors un livre, on va te dire, oui, mais les arbres que tu as coupés, et l'encre, et le papier, et ses impacts négatifs. Je pensais aussi aux externalités positives, de l'influence, etc. Et là, on s'est dit, si en plus, pour chaque livre vendu, on replantait un arbre. Imaginez, grâce à ce projet, on a replanté 20 000 arbres. 20 000 arbres. Si chaque citoyen plante 5 000 arbres, il arrivera à capter toutes les émissions de CO2 de toute sa vie. C'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je vous parle que de mon expérience personnelle. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer énormément d'entreprises qui ont décidé d'aller au-delà. On parle plus de réduction, on parle d'efficience. On parle plus de croissance économique, c'est vraiment cette efficience. On accepte l'état de déconsommation pour mieux utiliser les ressources et on parle de croissance dans d'autres secteurs, de croissance humaine, de croissance écologique. Le monde de demain, il existe, le monde de demain, il séduit, et le monde de demain, il rend heureux. C'est là-dessus que je veux terminer. Moi, au début, je m'étais dit, allez, je le fais un peu avec cette tendance sacrificielle. Mon père, il m'a toujours dit, c'est sympa tes conneries, je suis désolé, mais moi, si c'est pour vivre dans une caverne, m'éclairer à la bougie et me fouetter à chaque fois que je mange du chocolat, c'est pas la peine. C'est vrai qu'il y avait encore cette version écologique sacrificielle,
on l'a tous connu, malheureusement,
punitive. Oui. La dernière fois que j'ai vu mon père, il est venu à Paris, il m'a dit bonjour, et le deuxième truc qu'il m'a dit, c'est « Elle est où la maison du zéro déchet ?» Pourquoi ? Je lui dis « Mais qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit « Ça fait un an que je te côtoie, je t'ai jamais vu aussi heureux. Ça m'interpelle et j'ai envie de m'y mettre. » Je crois que c'est ça, ces nouveaux récits, ce qu'on peut raconter. Qu'en fait, dans ce grand changement, on a tout à gagner, et que ce moins mais mieux, c'est le moins de bien, plus de liens. C'est le moins d'avoir et plus d'être. Moi, en tout cas, ça fait 2 ans que je vis ça. C'est extraordinaire. Je vous le recommande à tous et je vous remercie pour votre écoute.
Ah, bravo!
Action individuelle, certes, mais une action individuelle qui me permet d'agir aussi collectivement.
On je vais te laisser animer, Julien, hein, c'est remarquable.
C'est ça. On me dit toujours, oui, mais toi, ton action individuelle, non, c'est une action que je fais chez moi, c'est une action que je fais dans la rue, c'est une action qui commence par moi, mais qui peut être à différentes échelles. Une action qui peut être avec d'autres. Parce que j'ai changé de banque, je suis dans un supermarché coopératif, je fais des maraudes de rue dans des associations, j'organise des collectes de ramassage d'objets, de déchets, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire qui est sur le point, à mon sens, de nous mettre tous un bon coup de pied au popotin et, comme on dit, de cranter. J'ai signé une pétition. Est-ce que vous avez entendu parler de cette pétition ? Qui a, en fait, réuni plus de 2 300 000 personnes, Marie ? 2 130 000.
C'est la plus grosse pétition,
la plus jamais, plus signée en France. Tu nous racontes ?
Mais c'est plus qu'une pétition. Alors, on accueille Marie Toussaint, notre affaire à tous, qui montre comment... Quand les citoyens, on essaie de faire que les citoyens se réunissent pour avoir une action qui ait un impact différent. Peut-être pas plus, mais un impact différent. Voilà. Marie.
Bonjour. Effectivement, 2 130 000 personnes, et ça continue à monter. Si vous voulez le signer, vous pouvez toujours le faire. C'est sur l'affairedusiècle.net. Je fais la petite page de pub et je referme la porte. Mais c'est intéressant ce que disait Julien, parce que on parle d'histoire de changement, de grands changements, mais on parle aussi d'histoire de personnes. Et moi, je voulais commencer par vous raconter les histoires de 3 jeunes femmes qui sont en train de se mettre en mouvement à travers le monde et de faire naître une espèce de conscience planétaire, un combat planétaire pour préserver justement ce qui nous est commun, le climat, mais aussi la biodiversité, les océans, l'eau potable. Et ces filles-là, c'est peut-être en premier Giuliana. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'affaire Giuliana contre Donald Trump. Mais on n'est pas tout seul dans le monde à agir en justice contre l'État ou contre les multinationales, on est de plus en plus nombreux. Et Giuliana, ça a été l'une des premières. C'est une adolescente américaine et elle a très tôt saisi la justice contre son État fédéré américain, puis contre l'administration américaine. À l'époque, c'était le gouvernement Obama, aujourd'hui c'est l'administration Trump, et donc ça devient de pire en pire et de plus en plus urgent. Et elle a mobilisé avec elle des dizaines de milliers de jeunes Américains. Elle a essaimé tellement qu'une autre jeune femme, Jamie Margolin, a pris son relais l'été dernier. Elle a fait marcher des dizaines de milliers de jeunes devant le Capitole pour réclamer l'action climatique. Et aujourd'hui, ils se battent devant les tribunaux pour que simplement le tribunal accepte d'accueillir cette plainte qui demande simplement le droit à un avenir de la part de ces jeunes femmes qui ont envie de grandir et un droit à un climat stable, puisque aujourd'hui, aux États-Unis, mais aussi en France, on a un droit légal à une économie stable et non pas un droit légal à un climat stable. La deuxième personne dont je voulais vous parler, alors j'en ai plein en tête, mais c'est Camilla de Colombie. Camilla de Colombie, de la même manière, elle a été, et sa vie a été mise en danger par le réchauffement climatique qui frappe la Colombie peut-être que d'autres, plus que d'autres États dans le monde. C'est souvent les pays les plus pauvres et ceux qui sont sur l'équateur qui souffrent en premier du réchauffement climatique, qui habitent aussi en forêt amazonienne et donc qui sent profondément l'impact de ce réchauffement sur sa vie. Et Camilla, de la même manière, avec 24 camarades, elle a saisi la justice et ils ont gagné en avril dernier. Ils ont gagné face à l'État colombien et ils ont réussi à obliger l'État colombien et l'ensemble des régions colombiennes à mettre en place des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre contraignants et dans des mois très courts, et des plans contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre adossés à un plan de lutte contre la déforestation, mais aussi à octroyer un statut, une personnalité légale à l'Amazonie, c'est-à-dire à faire déclarer des droits à la nature. Camilla, elle l'a porté en disant une chose, en fait, la situation de l'environnement, la situation des jeunes et des générations futures, la situation des communautés autochtones et des plus pauvres, c'est la même, et la Cour lui a donné raison en disant l'environnement et le social ne font qu'un. Et aujourd'hui, on est en train d'attendre de voir est-ce que la Colombie et les régions colombiennes se sont mises en œuvre, se sont mises en marche pour mettre en œuvre ce qui leur avait été demandé par la Cour. Mais en tout cas, on a là une grande décision qui est assez importante. Et puis la troisième histoire, c'est celle de Greta Thunberg. J'imagine que vous avez entendu parler de cette jeune Suédoise qui s'est lancée en septembre dernier dans une grève par semaine du lycée pour le climat. Elle embarque à sa suite des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes, notamment à travers l'Europe, mais en Australie aussi, aux États-Unis aussi, avec un message très fort, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, et aujourd'hui, on se l'est dit déjà à plusieurs reprises depuis ce matin, pendant longtemps, on a dit ça va être la catastrophe. Vers 2030, 2050, on ne va plus s'en sortir. Et pourquoi l'humanité a besoin d'être devant le mur, de faire face au mur pour pouvoir changer de braquet. Et aujourd'hui, on y est. On a vu rien qu'en France, les canicules, les sécheresses cet été, les inondations dans l'Aude. On voit qu'elles font des victimes humaines. On voit que par ailleurs, ces victimes humaines sont souvent les plus vulnérables, qu'elles font aussi des victimes non humaines, et c'est le vivant. Mais on sait qu'on n'a plus le temps, que normalement, on est censé avoir un pic d'émissions en 2020 si on veut pouvoir avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré, comme s'y sont engagés l'ensemble des États de l'accord de Paris. L'accord de Paris, ça fait 3 ans, ça a été adopté en France. Il n'y a que 16 États sur 197 qui ont adopté des lois pour respecter l'accord de Paris. Sur ces 16 États, plusieurs sont déjà aussi poursuivis pour manque d'atteinte des objectifs qui sont fixés, qui ont été fixés dans des laps de temps courts, par exemple le Canada qui continue à exploiter les sables bitumineux. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les dirigeants de ce monde continuent à nous tenir des grands discours et en disant qu'en fait, comme le gouvernement français a répondu à l'affaire du siècle ce matin, ils font déjà tout ce qui est en leur possible et qu'en fait, on a besoin que les comportements changent, que ce soit les individus qui changent tout seuls, comme si l'État pouvait complètement se départir de toute responsabilité, comme s'il n'avait pas la main sur les infrastructures, comme par exemple les transports ou le logement, comme s'ils n'avaient pas le pouvoir de coercition du secteur privé et d'obliger par exemple les grandes banques qui donnent encore 4 milliards d'aides directes aux énergies fossiles en Europe chaque année à se retirer des énergies fossiles et à aller financer des projets qui peuvent nous faire du bien à nous et à la planète. Et donc ce qu'on leur dit tous ensemble partout autour du monde, on a déjà 1250 actions climatiques en justice climatique qui sont portées, ce qu'on leur dit c'est qu'en fait on ne peut plus attendre, qu'il faut tout changer, que c'est possible. Et notamment en France, avec l'affaire du siècle, ce qu'on a montré, c'est que voilà, on a encore beaucoup, beaucoup à contrôler, à réguler ce que fait le secteur privé, notamment Total, qui est la 19e pollueuse mondiale. Il y a 25 firmes seulement qui ont émis 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. Et on a pollué autant depuis 1988, alors qu'on savait les causes et les conséquences du réchauffement climatique, qu'on n'avait jamais pollué auparavant. Et donc on sait que ces 25 firmes, on peut les contraindre à sortir des énergies fossiles, on peut les contraindre à polluer, et ça c'est le devoir des États. On sait aussi que les États ils peuvent financer la rénovation thermique. On a beaucoup essayé de nous opposer aux gilets jaunes. Au moment où on a lancé l'affaire du siècle, on nous a dit « mais c'est gilets jaunes contre gilets verts ». On a dit « non, en fait, la rénovation thermique, la France est en retard de 22% sur cette trajectoire en matière de bâtiment. La rénovation thermique, c'est bon pour les plus précaires qui payent des sommes incroyables de factures énergétiques dans des passoires thermiques. Et c'est aussi bon pour le climat. Et en fait, les mesures qui sont bonnes pour tout le monde, et notamment pour les plus pauvres et pour le climat, en fait, eh ben, c'est les mêmes et on peut vraiment les mettre en œuvre. Voilà, et donc on a lancé ça avec plein de gens. On était 4 ONG à la base, notre Affaire à tous, qui est l'association que j'ai créée il y a plusieurs années. On a été rejoints par Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme, mais aussi 2 groupes de youtubeurs. Il est prêt, on est encore temps, et Cyril Dion et des personnalités qu'il a réussi à mobiliser. Et notre idée, c'était de raconter une histoire, et donc ça rejoint aussi ce que vous essayez de faire aujourd'hui. de raconter une histoire. Cette histoire-là, c'est que si on est ensemble, si on est nombreux, eh ben, on peut vraiment leur faire prendre conscience qu'il faut tout changer, on peut les pousser à tout changer, et que d'ailleurs, s'ils ne le font pas, on continuera à se battre devant les tribunaux, et s'il le faut, dans la rue, comme le fait Greta Thunberg.
Merci beaucoup, Marie.
Et j'ai personne à introduire.
Alors, on me glisse dans une oreillette que je n'ai pas, que malheureusement, il va falloir qu'on accélère pour passer à la deuxième session. On est déjà un tout petit peu en retard. Je pense quand même que vous avez deux, trois questions au minimum à poser à nos intervenants. Alors, on va prendre deux, trois questions à la volée, si vous voulez bien. Deux, trois questions à la volée. Attention, deux, trois questions à la volée, c'est maintenant. Non, il n'y a pas de questions. Si, là-bas, il y en a une. Alors, on peut lui donner un micro. Et si vous voulez bien, vous juste dire... Enfin, votre nom, et puis poser votre question. Voilà.
Bonjour, Lionel. Je voulais savoir si ce n'est pas à un moment donné les juges qui vont obliger les gouvernants à prendre des dispositions importantes. Enfin, est-ce que le changement ne peut pas venir des juges ?
Marie, peut-être pour toi, plutôt, oui.
Ok, je me demandais si on en prenait plusieurs.
Non,
bah,
je ne vois pas d'autres bras qui se lèvent. Alors allons-y.
Oui, j'ai parlé de la Colombie tout à l'heure. On a aussi une victoire dont vous avez sûrement entendu parler aux Pays-Bas, avec l'affaire Urgenda, où les Pays-Bas ont été condamnés à rehausser leurs ambitions à court terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et derrière, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est ça a entraîné un changement de société, ce qui fait que la majorité des partis politiques ont déposé ensemble une loi, un projet de loi qui a été adopté cet automne, qui est la loi la plus ambitieuse pour la protection du climat, qui vise 95% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et en fait, c'est grâce au courage des juges qui ont pris la première décision Urgenda en 2015 que ça a permis de faire évoluer toute une société derrière. Les Pays-Bas sont encore en retard, mais ils rattrapent leur retard et ils ont vraiment des ambitions assez conséquentes. Il y a d'autres endroits dans le monde où les juges ont eu un rôle. Donc, la Colombie, il y a aussi eu le Pakistan en matière climatique.
Avec à Monsanto aussi, aux États-Unis.
Il y a Monsanto avec Dwayne Johnson, ouais, où c'est assez important. On a plein d'exemples aussi de droits attribués à la nature. Par exemple, en Pennsylvanie, je prends à dessein un pays qui n'est pas considéré comme folklorique, parce que souvent on dit mais les droits de la nature, c'est très folklorique, ça n'existe que dans des pays un peu indigénistes, tout ça, mais en fait, c'est partout. Et aux États-Unis, il y a 13 comtés dans lesquels des droits ont été donnés à la nature. Et la rivière de Little Mahoning s'est défendue devant les juges en disant « Je vais être polluée par la fracturation hydraulique, le gaz de schiste qui était censé être lancé à côté, et je n'en veux pas, ça va perturber mon cours normal, les écosystèmes. » Et en fait, les juges ont donné raison à la rivière Little Mahoning, et donc on a une victoire d'une rivière aux États-Unis. Il y en a plein d'autres, mais c'est celle-là que je raconte le plus souvent, parce que je la trouve intéressante. Et donc oui, en fait, on a aussi gagné sur l'amiante, sur les algues vertes en France. La difficulté à chaque fois, quand même, c'est que ce sont des victimes qui doivent aller se battre devant les tribunaux. Engager une action en justice, c'est intense. Et du coup, bah, voilà, Dwayne Johnson, victime des pesticides, les victimes de l'amiante, les victimes des algues vertes. Parfois, elles finissent par gagner, parfois pas. Mais c'est quand même à chaque fois au péril de leur santé, de leur vie, de leurs relations sociales, de leur travail. Et donc, on a vraiment besoin aussi de faire avancer le droit, même avant d'aller chercher le courage des juges.
Merci beaucoup, Marie, pour cette réponse. Une autre petite question. En attendant que des doigts se lèvent, oui, là, il y a quelqu'un qui est là, si on pouvait lui apporter à cette jeune femme, je crois, je vois de loin, mais oui, voilà ça. Donc, je voulais juste dire que Fanny Agostini, malheureusement, n'avait pas pu, a eu une obligation professionnelle. Elle n'a vraiment pas pu déroger à cela, mais elle est représentée ici par quelqu'un qui la connaît bien, qui s'appelle Henri Landès. Et Fanny est extrêmement engagée sur la question climatique et environnementale depuis des années. Maintenant, elle présente Thalassa, elle a monté une conférence, notamment à la Bourboule. Et puis, ils viennent de lancer une fondation, on peut appeler ça, Landestini, qui travaille sur les questions environnementales et notamment et aussi la permaculture. On peut dire ça comme ça, Henri. Et donc, ils ont un stand là. Et donc, je vous propose, si vous avez le temps, d'aller voir Henri, et comme il vous expliquera ce qu'il est en train de créer avec Fanny, qui n'a pas pu venir le présenter. Voilà. Et je donne la parole à cette jeune femme.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Claire. J'ai une question pour Cédric, en fait, sur la fraise du climat. Quand vous allez sensibiliser dans les entreprises en particulier, enfin, est-ce que ça débouche directement sur des plans d'action? Est-ce que une fois que les collaborateurs sont sensibilisés, est-ce que directement ils mettent enfin, est-ce que vous les accompagnez tout de suite sur qu'est-ce que chez nous on peut faire? Et sinon, est-ce que vous avez un retour d'expérience? Parce que une fois que les gens sont sensibilisés, c'est une chose, mais après, comment ça se traduit dans leur entreprise, dans leur quotidien, soit perso, mais surtout dans l'entreprise en fait?
Allez, merci pour la question. Déjà, je vais préciser les choses. La phrase qu'elle est utilisée quelques fois dans les entreprises, mais également dans plein d'occasions où il n'y a pas de prestations. C'est dans des écoles, sur des événements, etc. L'association a été créée justement pour déployer le plus largement possible, y compris dans le gratuit. Et c'est vrai que quelques fois, il m'arrive d'intervenir dans des entreprises. Et alors, ce qui est hyper drôle, c'est que j'interviens, on fait la fresque le matin, et puis l'après-midi, on discute, et on parle justement de qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant. Et alors, les questions, je pensais que ça allait porter sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre des activités de notre boîte. Et en fait, les gens ont été tellement touchés personnellement que les questions portent plutôt sur nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans la boîte, là, on a juste oublié en fait, qu'on puisse se positionner comme citoyen dans le cadre du boulot. Et là, c'est quelque chose qui a lieu quand même. C'est assez magique. Dans le temps qu'on a, on évoque éventuellement quelques pistes, et puis s'ils veulent, on prolonge sur d'autres sujets. Mais alors, ce qui est très intéressant aussi avec cet outil, c'est qu'on peut faire la fresque du climat au démarrage de n'importe quel projet qui a un lien avec l'environnement, même si c'est pas que le climat, ça peut être un projet qui touche l'eau, la biodiversité ou tout ce qu'on veut. On fait la fresque en démarrage de projet, un peu en mode team building avec l'équipe projet, et ça met un grand coup de pied aux fesses à tout le monde pour se mobiliser sur ce qui va suivre. Donc c'est vraiment quelque chose à voir. C'est la fresque, c'est quelque chose d'incomplet. Il faut le compléter avec autre chose. Il faut le compléter avec quelque chose qui est de l'ordre du passage à l'action, ou alors la fresque vient compléter le début d'un projet qui a besoin d'un petit coup de boost au niveau motivation. Et c'est souvent utilisé en team building, c'est-à-dire que voilà, on cherche une idée pour faire pour
chouette, on va parler de la fin du monde.
Faire un truc sympa entre nous, basé sur l'intelligence collective, tout ça, management. Hein. Et puis, on fait un truc sur le climat. C'est à la mode, il paraît. Voilà. Et donc, en fait, comme ça, on rentre dans un endroit où les gens ne nous attendaient pas forcément, et on touche des gens qui... Le problème dans nos sujets, c'est qu'on est un peu toujours entre nous qu'entre gens convaincus. Et en faisant la fresque dans un cadre de team building, là, on va toucher une équipe entière qui n'était pas forcément venu pour ça. Et ça, c'est intéressant.
Oui,
et
puis pour agir, il faut quand même, au départ, avoir une compréhension, une connaissance des phénomènes un peu plus profonde qu'avoir lu un ou deux articles. La dernière fois qu'on a fait des formations sur le climat, on parlait des 2 degrés, puis alors personne ne savait ce que c'était, même s'il l'a vu partout. Il y a juste une femme qui a levé la main, qui dit « Si, je crois que c'est l'élévation de 2 degrés de température des océans à l'échelle du monde. » Donc, il y a encore un peu de progrès à faire pour arriver à la connaissance suffisante dans ce domaine.